Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mes lèzes tremblent, tremblent être noyés.
Bienvenue dans un nouvel épisode de notre très attendue et riche série, L'écologie aux petits oignons. La série qui emprunte les murettes d'humains passionnés, de ces multiples êtres, peuplant notre planète. À chaque épisode, nous tendons la feuille et l'oreille pour que l'humain, dans toute sa diversité, nous parle de sa vision du vivant. Cette semaine, un aventurier du vivant des sols et des solutions qu'il habite prend racine à nos côtés. Peux-tu te présenter pour nos auditrices et auditeurs ?
Je suis Valentin Mouronval, je suis le fondateur de Petit Pot, un organisme de l'économie sociale et solidaire, et on propose des services inspirés de la permaculture aux particuliers, associations, entreprises, collectivités et établissements scolaires. 32 ans, j'en suis arrivé à créer Petit Pot en 2018, donc il y a 6 ans maintenant, suite à plutôt des inspiration personnelle et un parcours somme toute assez classique en études. J'ai toujours un petit peu cherché au niveau de ce que je souhaitais faire, au niveau de les aspirations personnelles, la fameuse question qu'on te pose au bout de 10 ans, et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et que tu ne sais pas, et que tu ne sais toujours pas à 15 ans, et que tu ne sais toujours pas à 20 ni à 24. J'ai fait un bac S, parce que de base je voulais partir dans l'armée de l'air, donc rien à voir. S, je suis parti faire du commerce, finalement à l'IUT de Lens, et après de fil en aiguille, on va dire que j'ai suivi le bateau des études supérieures jusqu'au bout, donc jusqu'au master, marketing, communication, pas mal d'alternances, des expériences professionnelles dans des secteurs un petit peu divers et variés. Au final, à l'issue de mes études, me poser la question existentielle de ce que je souhaitais faire pendant les 42 prochaines années, et je ne savais toujours pas. J'avais la chance d'avoir fait effectivement pas mal d'alternances, donc de pouvoir prendre le temps, me poser cette question existentielle de ce que je souhaitais faire et comment orienter ma vie professionnelle mais également personnelle. Et en fait, j'ai eu l'idée de créer Petit Pot 6 mois plus tard, étant donné que j'ai été élevé en grande partie par ma grand-mère et que printemps 2017, j'étais en train de passer la grelinette dans son potager, étant donné qu'elle a 86 ans et qu'elle n'avait pas nécessairement la force physique de le faire, mais qu'elle fait partie de cette génération-là qui a toujours eu un potager, qui a fait des légumes, qui vivait aussi principalement des récoltes, des animaux qu'elle avait, des poules, des lapins, etc. Et que du coup, je me suis posé la question, si moi j'étais pas là pour lui faire, à qui en fait elle pourrait faire appel, qui soit spécialisé plutôt dans le potager et le nourricier, et qui prenne soin du sol tout simplement, et de ses petits êtres vivants.
Dis-nous, qu'est-ce que le vivant signifie pour toi? Saurais-tu le décrire en 3 mots? Un goût, une odeur, une couleur, une texture, un son.
Pour la couleur, l'orange, étant donné qu'au niveau de, Petit Pot, au niveau du concept, au niveau de la boîte, etc., le logo est orange et pas mal de rapprochements. Orange parce que ça symbolise un petit peu le lever du soleil par rapport à la lumière qui vient accentuer la photosynthèse et qui redonne un petit peu l'oxygène, qui permet justement de mettre un petit peu toute cette société aussi qui fourmillait un petit peu en moi, parce qu'on est un petit peu en hauteur, et qui commence à s'éveiller pour aller travailler. Principalement, on était en semaine. Quand le ciel est assez bien dégagé, c'est ce qu'on voit en premier d'un lever de soleil, mais c'est aussi ce qu'on voit en dernier quand on voit un coucher de soleil, qui permet soit de rentrer dans la nuit, soit d'en sortir. Ça symbolise aussi le soleil qui vient taper un petit peu l'ensemble des briques du bassin minier, et ça symbolise aussi le côté historique, surtout par rapport à où j'étais à Notre-Dame-de-Lorette avec le sang qui avait été versé par les quelques 42 000 hommes entre 14 et 18. 3 mots pour décrire le vivant. Je dirais que c'est un peu tout, que c'est un peu rien, et que c'est un peu entre les deux. tout, parce que finalement, quand on regarde en tant que habitant de la planète Terre, le vivant est partout, que ce soit l'infiniment petit comme finalement l'infiniment grand, par rapport à ce qui nous entoure, par rapport aux êtres vivants, par rapport aux micro-organismes, par rapport aux végétales, par rapport à l'ensemble de ce qu'on peut trouver sur la faune, la flore, etc., d'un point de vue mammifère, d'un point de vue homme aussi, on peut dire que le vivant, à notre échelle, échelle humaine, est partout autour de nous. Puis finalement, quand on se place dans un plus grand référentiel, c'est rien, dans le sens où quand on commence à regarder un petit peu ce qui se passe en dehors de la planète Terre, du vivant, il n'y en a pas à connaissance actuellement. Après, vaste question philosophique pour savoir s'il y en a ailleurs. Mais à ce jour, on est quand même le seul bateau, un petit peu, cette seule bouée bleue perdue au milieu de nulle part, où il n'y a rien, ou qui abrite pourtant une grande richesse et une grande diversité de vivants, à la fois tout de notre échelle, à la fois rien quand on est dans une échelle bien supérieure, et finalement peut-être un entre-deux par rapport à ce qu'il peut y avoir ailleurs. Le bout du vivant, l'eau, ça fait référentiel quand même par rapport à la vie, si pas d'eau, pas de vie, de ce que je sache, jusqu'à présent. Toutes les eaux ne se valent pas. C'est de là où vient la vie et le vivant aussi, de manière globale. Le goût du vivant, c'est le goût que l'eau peut avoir quand tu la bois, qu'elle soit salée, qu'elle soit douce, qu'elle vienne de rivières, de sources, de montagnes. La texture du vivant, l'humus, celle que tu peux toucher quand tu vides le compost, celle que tu peux toucher quand tu viens faire un petit peu de potager, mais que idéalement t'es en maraîchage sur sol vivant et que du coup tu vas retrouver quand même un taux d'humus assez intéressant. Cette matière qui est à la fois humide, mais pas trop lourde, ni trop légère, ni trop sableuse, qui est juste un petit peu bien parfait, comme un nid douillet pour venir y nicher et y loger tes graines et tes petits protégés qui vont ensuite prendre vie et germer. Ce qui était vivant une fois que c'est mort, tout simplement, ça doit revenir à un processus de décomposition, de compostage et finalement une création d'humus. Quel son symbolise le vivant? Je pense que tous les sons symbolisent le vivant. S'il n'y a pas de son, c'est qu'en principe, il ne doit pas y avoir de vie, quelle qu'elle soit, dans l'espace. Il n'y a pas d'air, pas de vivant, pas de son qui se propage. Que tu sois sous l'eau, tu vas retrouver du son, que tu sois à 4000 mètres en train de sauter en parachute, tu vas retrouver du son aussi. Tout type de son, le son dans la globalité avec un grand S, et symbole du vivant. Je fais partie de ces gens qui sont un peu fascinés par l'odeur de l'essence fumée, mais finalement quand c'est brut à la pompe, il y a quelque chose qui est attirant là-dedans. Le pétrole, c'est quand même composé, si je ne me trompe pas, de millions de micro-organismes de base qui se sont décomposés. Donc, au final, est-ce que l'odeur de l'essence ou du pétrole n'est pas finalement l'odeur du vivant ?
Comment retranscris-tu cette vision du vivant dans tes projets ?
Le but dans les interventions, et là où j'y ai quand même passé énormément de temps ces six dernières années, c'est ça, hein, finalement, c'est d'intervenir directement sur place et de prendre en compte l'existant pour transformer un petit peu les espaces sous-valorisés ou les traditionnelles pelouses en écosystèmes naturels, autonomes, résilients et nourriciers. Donc on vient forcément conjuguer avec l'ensemble des éléments et on vient effectivement rentrer dans des process de compostage, de création d'humus, surtout sur la partie agronomie quand on est en maraîchage sur sol vivant, sur tout ce qui va être cheminement et importance de l'eau. Peut-être une des premières choses qu'on regarde également, l'accès à l'eau et son accès à la ressource dans les projets, sur tout ce qui va être au niveau de la lumière, sur tout ce qui va être les bruits, les facteurs extérieurs, etc. Enfin, c'est des choses sur lesquelles, en fait, il faut... Je pense que le secret, là, au niveau de la permaculture, c'est ça, c'est surtout la culture de la patience, surtout la culture de l'observation, et que par rapport à ce qui nous entoure, par rapport à quels sont les facteurs qui sont déterminants et qui sont importants pour favoriser le vivant dans ce qu'on fait, dans ce qu'on porte, dans ce qu'on aménage, dans ce qu'on va concrétiser après, derrière, où est-ce qu'on peut déjà retrouver le vivant et comment faire en sorte de l'optimiser tout en le diversifiant.
Dis-nous, qu'est-ce que l'humain peut apporter à l'ensemble du vivant ?
Tout et rien, concrètement la vie comme la mort. On est quand même une une espèce sur Terre assez évoluée qui a quand même compréhension énormément de choses sur ce qui l'entoure. Et on en est quand même arrivé à un point de notre évolution et à un point de l'histoire où on a un pouvoir de décision sur ça, heureusement ou malheureusement. Mais on est quand même une espèce qui peut faire en sorte soit de détruire ou soit de créer. On est capable de créer des écosystèmes, c'est un petit peu la voie que j'ai choisi de suivre, comme on peut aussi très facilement les détruire. Donc je pense plutôt que, à mon sens, on devrait plutôt prendre une direction sur le fait de préserver cette vie, de préserver ce qui nous entoure, d'en prendre soin, tout en sachant, enfin, surtout quand on réalise qu'elle est fragile à tout point de vue et que ça tient nécessairement à rien ou bien des cas aux facteurs chance, on devrait plutôt se placer, en mon sens, en termes de gardien par rapport à ça et mettre un petit peu plus de valeur sur le vivant. Quand même énormément d'apports ou de bienfaits écosystémiques sur certaines choses qu'on n'est pas capable de reproduire ou qu'on n'est pas capable actuellement de quantifier, que ce soit effectivement comme ça avait pu être développé dans un sketch sur le principe de la pollinisation, sur le rôle de l'abeille, sur ce qu'elle apporte. C'est tout cet ensemble écosystémique, on fait partie d'un tout, on est partie intégrante de l'écosystème, on a tendance parfois à l'oublier. Alors, une question parfois de déformation culturelle, très certainement, ou d'histoire. Mais il ne faut pas oublier que si ce qui est vivant autour de nous s'écroule, on en fait partie intégrante et qu'on s'écroulera avec. Actuellement, on arrive à mettre des valeurs sur n'importe quoi, par les temps qui courent, j'ai la pression. Mais on ne met pas assez de valeur sur ça, sur le vivant, ce que ça nous apporte, sur l'oxygène que ça nous produit, la nourriture, la façon de purifier l'eau, etc. Alors que c'est quand même des choses essentielles dont on a besoin pour répondre à nos besoins primaires et qu'on s'en soucie guère par rapport à ça, parce qu'on part du principe que c'est là et que ce sera toujours là. Prendre un petit peu plus conscience de ce qui nous entoure, et c'est à partir du moment où on arrivera à mettre, je ne sais pas moi, un prix ou une donnée financière sur l'acte de polliniser une fleur pour en sortir un fruit, ou concrètement de partir d'une goutte d'eau polluée pour en arriver à une goutte d'eau saine qu'on peut boire, je pense qu'on aura fait peut-être... malgré tout, pas sur la compréhension qui nous entoure et de ce que ça nous apporte. Donc, placer une valeur financière, je sais pas si c'est le meilleur des cas. Actuellement, le monde tourne quand même par et pour l'argent. Donc, s'il faut en passer par là, why not ?
On va passer à la question d'actualité. Le précédent épisode Feuille de Chou, qui a été diffusé semaine dernière en podcast sur le site de notre radio PFM 99.9, portait sur le dernier rapport de WWF, publié le 10 octobre, et retraçant, comme à son habitude, le déclin du vivant. Alors que la COP16 de la biodiversité se déroule du 21 octobre au 1er novembre à Cali, en Colombie, ce rapport met en lumière des constats de déclin du vivant, pour faire court. Entre 1970 et 2020, la baisse moyenne des populations de vertébrés sauvages terrestres, marins et d'eau douce, suivi par cette fameuse ONG WWF, a atteint 73% de diminution. On parle bien de la diminution d'abondance, de quantité d'individus par espèce. La baisse moyenne des populations de vertébrés d'eau douce s'élève à elle seule à 85%. Ce sont les populations d'amphibiens, vous savez, grenouilles, tritons, crapauds, et bien sûr de poissons. L'Amérique latine et les Caraïbes obtiennent le trophée dans les régions du monde où l'effondrement de la biodiversité est le plus flagrant, avec une baisse de 95% des effectifs. L'an dernier, la COP15 avait abouti à l'objectif de protéger 30% des terres du globe. Le National Biodiversity Plan, un outil développé par le WWF, fait le point sur les engagements nationaux pour la biodiversité. Il a été présenté en amont de la conférence mondiale et il a tendance à couper court à des discours bien rodés de politique. Car selon cet outil, à peine une vingtaine de pays ont présenté leur stratégie et la qualité de cette dernière fluctue grandement de pays en pays. En effet, les cibles ne sont pas chiffrées ni datées, les moyens alloués sont insuffisants au regard de l'état des écosystèmes et certaines pressions humaines ne sont pas du tout intégrées. À la lumière de ta vision du vivant, que penses-tu de tout cela ?
Ce monde est cruel. Et comme je suis bleu, blanc, rouge, je suis Crips et finalement bleu.
On arrive à quantifier ce qui disparaît, fait rien pour nécessairement pour enrayer ça. C'est quand même propre à notre espèce, à chaque fois. On réagit uniquement quand on est un petit peu face au mur, qu'on a un petit peu le nez dans la mousse. Finalement, on a un pouvoir de réaction à l'instant T, qui est généralement dans la réaction et pas dans l'anticipation, qui va être biodiversité, surtout qui va être réchauffement climatique, catastrophe naturelle, etc. Ça fait quand même des décennies qu'on est au courant que ça va s'intensifier, qu'il va se passer des choses, que ça va devenir problématique, etc., etc. Mais qu'on n'a pas de pouvoir, de capacité d'anticipation, ou de volonté plutôt, plutôt une question de volonté. Bon, ça, ce ne sera pas non plus la dernière étude, il y aura dans ce sens-là, comme d'autres études sur la fonte des glaces, comme d'autres études sur la pollution atmosphérique, sur le réchauffement climatique, etc., etc. Je ne sais pas ce qu'il faut, concrètement, je ne sais pas quand est-ce qu'on réagira, je ne sais pas. Question que je me suis posée pendant longtemps, sur comment faire. Peut-être que je fais ce que je fais aussi au quotidien pour essayer d'enrayer les choses, mais à la fois espoir et pas espoir, voir que effectivement, on va dire que ça s'inverse à un moment donné, et puis finalement, quand on voit des choses comme ça, ouais, plutôt dans le, pas dans le fatalisme, mais dans le réalisme, malgré tout ce qu'on sait, malgré tout ce qu'on arrive à deviner, à anticiper, malgré tous les calculs qu'on peut faire, on n'est pas foutu de réagir. Il y a quand même un gros paradoxe entre l'homme tel qu'on nous le vend actuellement par rapport à une espèce très évoluée, etc., et cette capacité quand même à agir sur des choses dont on a conscience depuis, depuis des générations maintenant. Pas sûr que ce soit pertinent d'inciter les gens à planter des arbres alors que finalement on en coupe des centaines et des millions derrière. Je suis pas sûr que ce soit pertinent non plus d'embêter les gens sur certaines choses au niveau de la pollution quand on voit ce que certaines ouvertures, certaines mises à l'eau de bateaux commerciaux, des lignes, etc. enfin, polluent en elles-mêmes en fait. Je sais pas, je trouve qu'il y a quand même un gros sentiment de culpabilité à l'échelle de l'individu, mais qu'on est quand même rentré dans des process de masse qui détruisent beaucoup plus. Cette notion de la culpabilisation à l'individu permet après de rester dans une certaine forme de statu quo. C'est quand même quelque chose que je rencontre au quotidien, les gens ont quand même conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas, ils ont quand même envie d'agir sur ces choses-là, mais à la fois une liberté d'action, comme à la fois un sentiment de prise au piège sur ça, et des choses sur lesquelles on n'a pas la main. Je pense pas, et je reste quand même assez persuadé que, ouais, si... Je sais pas, s'il n'y a pas un sursaut global et général par rapport à ça, c'est pas des données, c'est pas des choses qui s'avanceront malheureusement d'ici peu.
On va passer à l'agenda librairie. Quel rendez-vous ou référence souhaiterais-tu nous communiquer ?
J'ai 32 ans, j'ai quand même partie de la génération qui a commencé à être sensibilisée à ces questions-là pendant la scolarité. Je sais que je me souviens, par exemple en classe de 4e, on avait été voir La vérité qui dérange, le film d'Al Gore à l'époque, qui était vice-président américain et qui avait fait un film sur le réchauffement climatique et son impact. Mais je me suis pris une première sensibilisation, une première claque de sensibilisation à cette époque-là, parce qu'on a encore souvenir actuellement. On peut y apporter des réponses et des solutions avec des choses toutes simples sur des problèmes qui sont déjà identifiés actuellement. Et en fait, j'ai commencé intérieurement à avoir ces processus de réflexion-là et d'observation sur ce qui m'entoure et sur comment faire mieux ou comment transformer un problème en solution et en opportunité. En 2016, donc à la fin de mon cursus, quand j'étais en pleine réflexion personnelle sur l'orientation à mener, j'ai eu une révélation sur la lecture du livre de Jérémy Rifkin sur la troisième révolution industrielle par rapport à ça et sur l'ensemble des solutions que ça a apporté, mais plutôt les solutions écosystémiques. La lecture de ce livre-là, qui fait quand même un petit paquet de pages, mais que j'ai quand même assez dévoré sur mes vacances en moins d'une semaine. Je sais que j'y ai trouvé un sentiment de satisfaction et plutôt un sentiment de soulagement sur l'ensemble des orientations et des solutions qui étaient proposées, qui restaient après à appliquer, à mettre en œuvre. Donc bon, après la région s'est accaparée ici, au niveau de la région Hauts-de-France, le dispositif de la troisième révolution industrielle et l'ensemble de ses préceptes par rapport à ça et bon nombre de choses qu'on voit actuellement au niveau des stratégies, au niveau du développement, au niveau de l'économie, au niveau de l'emploi, l'environnement, etc. suit un peu cet axe-là.
Même le ciel n'a pas de limite.
Tu y as pêché où ?
Baobab acajou.
Voici que cet épisode, aux côtés d'un joyeux ami, des êtres à pattes et à tiges, prend fin. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à une nouvelle, fraîchement cuite.
Élan de palissandre, mais l'aise tremble, tremble être noyée.